sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué
Gosport
en grève.
Bonsoir.
Donc, vous êtes sur Radio Canu. Et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Et donc on va commencer par vous parler de la course-poursuite qu'il y a eu hier, course-poursuite à la poursuite de Macron.
Ensuite on fera un petit bilan de la répression depuis le début de ce mouvement.
Et puis on parlera de l'armement de la police pour l'euro.
On enchaînera sur les grèves, les blocages et autres manifs dont on parle très peu dans les médias, mais nous on va vous en parler.
On vous dira quelques mots sur Valls selon le progrès.
On rajoutera encore quelques mots sur la réforme qui va créer les groupements hospitaliers territoriaux.
Et on parlera bien sûr du gaz de schiste.
Et enfin, bien sûr aussi, petite actualité au Kurdistan. On commence donc tout de suite
par la poursuite de Macron.
Qui avait lieu hier,
oui, tout à fait.
À Lyon.
Emmanuel Macron était à Lyon, à l'invitation de Gérard Collomb, où il est venu s'exprimer devant des patrons ébahis, tout à fait conquis, et quelques personnes ont décidé de venir le voir d'abord chez Arkema, ensuite au niveau de l'hôtel de ville, et enfin ils l'ont raccompagné jusqu'à son train parce qu'ils sont très sympathiques.
Et il y a peut-être eu même un accueil à Paris.
Effectivement, des gens, à peu près 200 personnes sont venues l'accueillir à la gare de Lyon.
L'idée, c'était de faire comme à Marseille, d'empêcher sa venue. Bon, ça n'a pas empêché sa venue, mais c'était un peu de lui montrer qu'on n'est pas d'accord.
Voilà, et peut-être que du coup, maintenant, le reportage est prêt.
Paniquez pas !
Niquez-vous !
Vous n'allez pas me faire peur à votre futur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Jeudi 2 juin, jour de manifestation et de grève contre la loi travail et son compte. À Lyon, les grévistes attendent avec impatience Emmanuel Macron, qui disait le 1er juin, « Je suis allé au contact ». En fin de semaine dernière, et je continuerai à le faire, parce que je considère que cela participe du vrai respect. Comptez donc le nombre de dirigeants politiques qui font encore ce geste. Tout le monde pensait donc pouvoir approcher cet homme qui se dit proche du peuple. Mais malgré des efforts certains, les manifestantes et les manifestants le poursuivent toute la journée. D'abord devant l'usine Arkema, puis devant l'hôtel de ville, et enfin jusqu'au quai de la gare. Mais il n'est malheureusement pas possible de l'apercevoir à moins de 30 mètres. Distance trop importante pour admirer son costard. Tout commence donc à Oula.
Pas un costard qui fait la valeur d'un homme et que nous, avec nos vieux t-shirts tout pourris, on souhaite un monde meilleur. Je sais pas, c'est mignon, c'est un peu nul, mais...
Et à Pierre Gattaz qui dit que les manifestants sont des terroristes ou des voyous.
On est fiers d'être sauvages.
Et sinon...
Aucune législation.
Il y a plein de gens qui bossent et qui n'ont pas les moyens de se payer ces costards à 4000 euros. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans la rue et ils ne veulent pas de sa politique de libéral, de social-démocrate libéral. On veut qu'il retire sa loi travail de merde. Et voilà, il fait ce qu'il veut de son pognon, mais nous, on veut juste pouvoir vivre dignement sans se payer des costards à 4000 euros.
Et Agatas qui dit que les manifestants sont des terroristes et des voyous.
Lui, on peut dire que c'est un escroc, un bandit, c'est le fossoyeur des droits sociaux dans ce pays et que c'est complètement inadmissible d'assimiler les salariés en lutte, les salariés qui se battent pour leur avenir à des terroristes. Où est la violence aujourd'hui? La violence, c'est celle de ce gouvernement qui veut précipiter des centaines de milliers de salariés dans la précarité.
Là, il y a... C'est le bordel, là. Et là, vous êtes depuis ce matin, là, vous êtes à Sudrail, depuis ce matin, vous bloquez les dépôts, vous êtes sur des piquets de grève, comment ça se passe?
Ouais, il y a des piquets de grève un peu sur tous les gros bassins d'emploi cheminots, les gros centres cheminots, Pardieu, Perrache, Guillotière, Ciblin, Vénissieux. Donc oui, des piquets, et puis les collègues en grève... peu ou pas de trains qui circulent. Et là, en fait, on est venu soutenir les collègues de l'atelier d'Oulin, des ateliers d'Oulin historiques, qui sont menacés de fermeture. Et on est venu témoigner, toutes les AG se sont rassemblées ici à Oulin pour les soutenir. Et on rejoint là maintenant le cortège interprofessionnel pour aller tailler le costard à Macron.
Alors déjà, à Macron, pour se payer un costard, nous, on a d'autres préoccupations avant d'avoir un costard. Hein, il faut qu'on se loge, qu'on mange et qu'on ait aussi des activités sociales diverses et variées.
Et Agathaz ?
Agathaz, la même chose. C'est un esclavagiste des temps modernes. Lui, du haut de son piédestal, il est en train de se courber progressivement. Et il est bien bon de vouloir nous pressuriser. Et je regrette que la plupart des gens qui sont sympathisants ne soient pas aussi dans la rue, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de rapports de force qu'il n'y paraît. Mais comme eux ont plus de résistance que nous, parce qu'ils ont l'argent et le pouvoir, ils peuvent essayer de faire pourrir la situation.
En même temps, là, une manif, je sais pas, on est combien, on est 2000, 3000 à Oulin à 10h en pleine semaine, c'est pas mal quand même, non?
Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est jamais assez. Tu sais bien, camarade, que plus on est nombreux, plus on s'entraîne. Et si les gens ont peur des manifs, il faut leur dire qu'il y a même des pères de famille avec leurs enfants, parce que justement, eux, ils savent ce que c'est que de prévoir l'avenir.
C'est quoi la première question?
Ah, ça risquerait d'être incorrect, j'ai envie de dire.
Agathaz, déjà.
Ouais.
Bah, Agathaz, c'est ce qu'on lui dit.
Bah, nous, clairement. Bah, le terroriste, c'est lui. Le terroriste,
non, c'est... Non, on a tendance à dire que c'est eux, les terroristes, quoi. C'est pareil. Après, lui, il se doit d'être exemplaire puisque c'est lui qui représente les patrons. Nous, à la limite, s'il montre l'exemple, on verra. Mais pour l'instant, l'exemple qu'il a montré, c'est vraiment pas chouette, quoi. Il défend des gars qui se font un masque de blé. Et qui mettent les autres et qui créent de la pauvreté. Si t'as plein d'argent, tu peux faire de la pauvreté. Tu vois, eux c'est l'inverse. Plus ils sont riches, plus ils font des pauvres. Donc là, faut qu'ils m'expliquent qui c'est le voyou et le terroriste. Nous on fait quoi? On est déjà pauvres et on se bat pour pas l'être plus à cause de lui. Alors là, tu vois. Et pour Macron, le costard d'abord, premièrement, j'ai pas envie d'en payer un. Moi je suis bien en survêt ou en jean pourri. Et deuxièmement, bah écoute, nous on bosse déjà bien assez. Lui autour de lui, j'ai pas l'impression qu'il bosse beaucoup. À l'Assemblée, ils viennent même pas. Enfin, c'est des mecs, le boulot, ils produisent que dalle. Nous on produit, on rapporte de la richesse. Lui et ses potes, ils rapportent quoi? Il a produit quoi depuis qu'il est né, lui? Il allait à l'école, il allait s'asseoir. Ah, peut-être quand il bosse chez Rothschild, peut-être, je sais pas. Et qu'il a pas de leçons à nous donner. Et après, autre chose, moi j'ai peur de personne, je peux aller où je veux, dans le pays, n'importe quel endroit, n'importe quel quartier, tout seul. Lui, il a besoin de 15 vigiles, 100 flics pour aller. Pour se présenter devant nous. Donc c'est déjà pas bien naturel. Et d'autre part, moi, je l'attends quand il veut. On peut discuter face à face, tu vois. Et je suis sûr qu'il changera de discours, tu verras.
Les terroristes, c'est les patrons. Et nous, on est cheminots. À la SNCF, patron Pépi, il a tué 7 personnes. C'est la faute uniquement à la politique d'entreprise. Donc les terroristes, c'est eux, c'est pas nous. Rends le pognon. Rends le pognon, Macron.
Le courant est coupé, les raffineries plus alimentées, tous ensemble, ouais. On a tous bien travaillé, on a très bien travaillé, on a tous un costume de nos arbres, on a très bien travaillé, on a payé nos impôts, pas comme toi Macron, tu ne payes pas, tu dois payer l'ISF, voyou, salaud, épée, comme pourri.
Nous sommes à l'usine Arkema de Oulin, où apparemment serait présent notre ministre de l'économie, M. Macron, dans son joli costume. Voilà. Donc on est venu à lui présenter nos hommages et lui rappeler qu'on est contre sa loi et celle de sa collègue Mme El Khomri. Voilà.
D'accord, et là on peut passer ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on avance?
Évidemment qu'on ne peut pas passer, on n'accède pas à un ministre comme ça, donc là on fait juste du bruit et de la présence, puisqu'évidemment on n'aura aucun dialogue avec cette personne, hein, on le sait d'avance.
Libéré, voilà. Macron,
libéré,
Macron.
Ils ont tout bouclé. Là, ils ont mis des drapeaux français et tout devant l'usine, c'est horrible. Quoi.
C'est vrai? Devant Arkema, ils ont fait ça. Là, ils ont fait quoi? On n'a pas bien entendu, Redi.
Non, ils ont mis plein de CRS et ils ont mis des beaux drapeaux français devant l'usine.
Et c'est qui a fait ça à ton avis?
Ah, je sais pas. Peut-être le ministère de l'économie.
Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, on va tout casser.
C'est incroyable, comment ça se fait?
C'est un peu comme les murs de Berlin, on dirait.
C'est clair. On a fait moins spectaculaire.
Mais... Bah, on rentre.
Mais dans quoi? On rentre dans quoi?
Et bah du coup, il y avait un gros portail, et des copains motivés, des copines motivées, bah, l'ont ouvert à coup d'épaule, j'imagine. Et du coup, là, on rentre dans l'enclos de Arkema.
Waouh!
Et ben, on va voir ce qui se passe parce que je vois pas très très bien d'ici.
Ah, ils d'accord, sont donc le flic, on fait ressortir tout le monde.
En gros, les CRS, ils viennent de nous. Ils en ont pris, il y en a qui sont ressortis mais qui restent devant. Et voilà.
C'est tout.
Mais ils sont tendus, quoi, forcément.
Ouais. Mais ils sont.
Paniquez pas!
Niquez tout!
Il se passe qu'il y a une manifestation en l'honneur de M. Macron qui vient discuter avec son ami Gérard, qui l'a endoubé, aimé, bichonné, ciré et tout, donc ils viennent lui faire une petite visite, je pense, pour discuter de quoi, on ne sait rien, évidemment, au bout du compte. Là, on est à l'arrière de la mairie du premier, enfin de la mairie centrale du premier arrondissement, quoi, voilà, la mairie centrale, quoi, de Lyon, où habite M. Colomb. Et nous sommes là une bonne centaine, 150, 200 peut-être, à manifester, et puis nous avons les policiers qui nous coincent. Mais qui ne nous empêche pas de crier, d'ailleurs, les slogans que vous avez pu entendre à ce micro, d'ailleurs. C'est le micro de Radio Canu, je pense.
Et il est dedans, Macron, on sait, ou pas?
Il est?
Il est dedans, là, Macron, le...
Alors, je ne sais pas. Il m'a pas prévenu à quelle heure il pouvait arriver. Donc, je ne sais pas, mais il devait arriver aux alentours de 15h, je crois que c'est ça, non?
D'accord.
C'était prévu
dans
comme ça.
Dans une demi-heure, quoi.
Voilà. Donc, on a encore un petit peu de temps, d'autant plus que la pluie cesse et qu'un soleil est splendide. On va briller, donc... Manque de bol pour lui, on risque de rester là de très longtemps.
Comme ton petit con. Eh hey, Manu. Comme petit con. Eh hey, Manu.
Bah Manu, tu descends. Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Et pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends.
On s'en fout, on aime pas les costards. On s'en fout, on aime pas les costards.
Paniquez
tout.
Reste dans mes odeurs, j'en peste mauvais odé de la veille, quelle horreur. Le punk se réveille, éclate son réveil sur le téléphone qui sonne. Je m'assomme, réveille le punk qui sommeille. Je bondis mon sommier, me rince le gosier. Paume la pierre que j'achetais, me servait comme coiffé. Crise d'adolescence.
Alors, eh ben, on vient d'écouter donc ce petit reportage, donc qui retrace un peu ce qui s'est passé hier pour la venue de Macron dans la région lyonnaise. Et maintenant, on va vous parler des bilans des arrestations. Donc ça, c'est un truc qui a été donné un peu par la Caisse de solidarité à Lyon. Et donc, la Caisse de solidarité nous apprend que depuis son existence, donc c'est-à-dire 2007, ils n'ont jamais eu affaire à autant d'arrestations et de condamnations en si peu de temps en période de mouvement social. Le seul précédent comparable a été le mouvement contre la réforme des retraites de 2010. Donc là, au niveau du nombre de gens arrêtés depuis la première manifestation qui a eu lieu donc le 9 mars, il y a environ une cinquantaine d'interpellés qui ont été, d'une manière ou d'une autre, en contact avec la Caisse de solidarité. Le chiffre réel des interpellations, donc celui de la préfecture, est un peu plus élevé, c'est-à-dire 130. Donc ça s'explique d'une part par le fait que la préfecture comptabilise tous les interpellés, y compris ceux qui se font relâcher sans poursuite judiciaire, et d'autre part par le fait que tous les interpellés sont malheureusement pas tous au courant de l'existence de la caisse de solidarité. À titre de comparaison, en France, du 9 mars au 26 mai, il y a eu environ 1400 personnes qui ont été interpellées selon le ministère de l'Intérieur, et une cinquantaine sont passées en comparution immédiate. Donc voilà, ça c'était l'instant chiffre. Et donc, je tenais à rappeler quand même que tout ceci, c'est-à-dire pas les arrestations, mais les signalements des arrestations, c'est grâce aussi à toutes les personnes qui, présentes au manif, ont le réflexe de téléphoner pour transmettre les informations sur les arrestations en temps réel. C'est grâce aux personnes qui diffusent des tracts avec le numéro de la caisse de solidarité. Grâce aux personnes qui vont aux comparutions immédiates et au procès et qui font ensuite des récits. Et voilà, et ça c'est vraiment des trucs super, que de gestes d'autodéfense collective qu'il faut continuer à avoir et diffuser le plus largement possible. Et pour continuer dans ces trucs de répression, arrestation, je vais juste vous rappeler un peu vite fait quelques conseils avec quelques exemples d'arrestations qui ont eu lieu là pendant le mouvement en cours. Donc déjà, éviter les situations où on se retrouve seul et isolé. Donc voilà, porter une tenue qui vous rend difficilement identifiable au sein de la manifestation. Donc globalement en noir c'est pas si mal. Faut éviter, donc le but c'est d'éviter tous les signes extérieurs qui peuvent faciliter la reconnaissance.
Le vert fluo, par
exemple. Le vert fluo, le rouge bien vif, etc. Bon bref. Prévoir des habits de rechange afin de ne pas présenter la même image au début, en cours et en fin de manif, parce que tout est filmé et identifié et les repérages se font souvent grâce aux vêtements. Et par exemple, il y a une manifestante qui a été arrêtée le 11 mai lors d'un rassemblement devant l'hôtel de ville de Lyon et qui a été identifiée sur la base d'une veste qu'elle portait la veille au cours d'une manifestation spontanée, donc en réaction à l'utilisation du 49.3. Et où il y a eu notamment la permanence du PS qui a été un peu retournée. Et elle a malheureusement écopé de 6 mois avec sursis, avec 13 500 € d'amende. Donc voilà, donc faut penser à pas non plus se trimballer avec l'événement qu'on portait la veille pendant la manif. Ensuite, faut aussi faire gaffe aux empreintes. Donc avoir des gants, ça peut être une bonne idée. Par exemple, après la première incursion surprise au collège Truffaut, donc pendant la manif du 10 mai, la police scientifique est venue procéder à des relevés d'empreintes, notamment sur des canettes de bière laissées par les occupants du 10 mai. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là dans les exemples, etc. Mais il faut aussi faire attention à son téléphone contre un bal, etc. Donc là, ça c'est la caisse de Sceaux qui a filé un peu toutes ces infos. Pour rappel, vous pouvez donner des sous à la caisse de solidarité qui serviront à défendre un peu tous les camarades qui se sont fait arrêter. Donc vous pouvez envoyer des chèques à l'ordre de la caisse de solidarité au 91 rue Montesquieu dans le 7e à Lyon. Il y a périodiquement des concerts de soutien à la caisse de solidarité. Le prochain aura lieu le 11 juin. Donc pour avoir l'adresse, vous envoyez un mail à caissedesolidarité@riseup.net. Et il y a aussi évidemment tous les premiers jeudis de chaque mois à 19h, le bistrot de la caisse et l'atelier des canulars, donc au 91 rue Montesquieu. Et je vais vous donner je vous rappelle le numéro de téléphone de la caisse de solidarité, donc notez-le bien, 06 43 08 50 32. Et le mail, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est caissedesolidarité@riseup.net.
Et juste une petite précision, parce que c'est vrai que souvent on entend ça et quand on discute avec des gens, ils se disent « Ah mais moi je suis pas un casseur, ou je vais pas faire des trucs chauds, donc je prends pas ces précautions ». Mais déjà, d'un côté, en fait, de prendre ses précautions, de ne pas être très très visible quand on est dans une manif, et si on est le maximum à le faire, en fait, ça rend la manif d'autant plus incontrôlable et d'autant plus subversive. Et puis deuxièmement, en fait, on ne sait jamais ce qui va se passer dans une manif. Et là, c'est vrai qu'ils font des relevés d'empreintes sur des canettes de bière. Bah, il suffit de se dire ah bah ouais, j'ai rien à me reprocher. Je suis juste les copains. Je vais boire une bière devant l'action. Et puis la canette, elle reste, elle est au sol. Donc peut-être ça suffit pas à se faire inculper, ça suffit à se faire interpeller. Et quand on se fait interpeller sur ce genre de truc, c'est se prendre des grosses pressions, pressions en garde à vue ou en convocation. Du coup. C'est des réflexes collectifs, quoi.
Il relève aussi les empreintes sur les voitures de flics qui sont devant les comicos, qui se sont fait retourner, etc. Et donc voilà, il y a d'ailleurs une personne qui s'est pris, trois mois ferme, sans mandat de dépôt, à cause de ces empreintes retrouvées sur une voiture devant un comico.
C'est pas une raison pour nettoyer les voitures de flics.
Donc voilà, et maintenant on va vous parler un peu des d'exemples aussi de violences actuelles des flics. Donc c'est des exemples, mais en fait faut savoir que c'est quand même des choses qui sont assez récurrentes dans les manifs actuellement. Donc par exemple là, il y a eu un témoignage que vous pouvez retrouver sur rebellion.info, avec d'ailleurs la vidéo, parce que ça a été filmé. La personne qui a été blessée avait une caméra embarquée sur son casque de protection, donc ça a été entièrement filmé. Donc en fait, c'est un manifestant soigneur qui a été blessé, donc c'était le 26 mai, par une grenade de désencerclement. Donc ça lui a quand même causé 2 jours d'ITT, malgré son casque. Et donc on est passé pas loin de l'incident grave. Donc ça s'est passé juste après, à Gabriel Péri, quand il y a eu la première altercation contre les forces de l'ordre. Donc il y a eu cette première altercation, et quelques temps après, les flics n'étaient plus menacés, et ils ont continué à jeter des grenades de désencerclement, dont une en plein Cortès. Donc ça, on voit très bien sur la vidéo. Et d'un coup, on voit la personne qui tombe complètement. Elle a reçu un éclat dans la tête. Donc heureusement, la blessure s'est avérée bénigne, mais ça a quand même entraîné 2 jours d'ITT. Et c'est important de rappeler que le même jour, dans la manifestation parisienne, il y a une journaliste qui a subi une blessure similaire, qui là, pour le coup, lui a provoqué un traumatisme crânien particulièrement grave, et à la suite duquel elle est toujours hospitalisée dans un état critique. Donc voilà.
Et toutes ces violences, elles continuent, et elles s'adressent même à des enfants désormais. Puisqu'hier à Saint-Malo, la police a blessé la bagatelle de 11 collégiens lors de l'évacuation d'un collège. Alors le jeudi 2 juin, des élèves, des parents et des enseignants menaient une action pour protester contre la décision de fermeture de cet établissement à la rentrée 2017. Les parents d'élèves avaient bloqué les grilles du collège avec les chaînes, ce qui empêchait la tenue des cours. Et puis une centaine de personnes s'étaient retrouvées devant l'entrée dans une ambiance bon enfant. Alors les flics sont intervenus sans aucune sommation pour évacuer l'entrée de l'établissement. En fait, ils ont foncé sur les personnes qui étaient regroupées en bousculant violemment à la fois les adultes et les enfants. Et dans le bordel qu'ils ont entraîné, 11 enfants ont été blessés, dont certains sérieusement. 3 collégiens ont en fait été transférés à l'hôpital par les pompiers. Et évidemment, les personnes qui étaient sur place ont été assez choquées. D'ailleurs, le principal a demandé la création d'une cellule psychologique auprès de l'éducation nationale. Les élèves blessés plus gravement sont un élève de 6e, donc un enfant qui a 11 ans, et 2 de 3e. L'un des enfants hospitalisés souffre d'une fracture de la jambe et un autre d'une fracture au poignet. Le 3e a juste un genou abîmé, mais c'est quand même une blessure importante qui l'a amené à l'hôpital. Alors, lors d'un point presse, on va voir la réaction de l'État. Le préfet de région, M. Christophe Mirmand, a déclaré au sujet de cette intervention, je cite, « Il y a eu un usage de la force strictement proportionné aux circonstances. » Donc, pour blesser 11 enfants, dont 3 gravement, c'est pas mal. Et il a rappelé qu'il s'agissait d'assurer la libre circulation à l'entrée du collège. Il a ensuite indiqué qu'il n'y a eu ni blessés graves, ni violence. Alors, apparemment, les journalistes l'ont vu, les personnes présentes, mais en tout cas, le préfet, lui, ne les a pas vus. Et il a aussi rappelé que l'intervention avait été faite par des fonctionnaires de police du commissariat de Saint-Malo, lesquels, je cite, n'étaient pas en tenue de maintien de l'ordre. Alors, c'est bien connu qu'il y a besoin d'être en tenue de maintien de l'ordre pour blesser des enfants. En tout cas, on retient bien le message du représentant de l'État, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Au moment où il est de bon ton de comparer la CGT à Daesh et où les blessés se comptent par centaines, faut-il s'étonner qu'on puisse blesser des enfants impunément ?
Et on retourne à Lyon pour parler de répression qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Parce que oui, à partir d'avant-hier, donc le 1er juin, la police municipale de Lyon est armée. Donc juste à temps pour l'Euro 2016 qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet à Lyon. Donc jusqu'à avant-hier, les agents de la police municipale n'étaient pas armés d'armes dites fatales, au moins officiellement. Donc par exemple, ils pouvaient avoir des flashballs, mais bon, pas officiellement de revolver. Comme on le sait, le fameux risque terroriste rend possible beaucoup de changements qui vont dans le sens de la répression et de la militarisation. Et Lyon n'en fait pas exception. Donc faisons un petit pas en arrière. Exactement le 1er juin de l'année dernière, est-ce que vous vous souvenez, il y avait une manifestation de la police municipale de Lyon en grève pour revendiquer l'ouverture du dialogue avec Colomb sur la question de l'armement. Et Gégé, qui était encore jeune et idéaliste à l'époque, avait durement critiqué ce rassemblement qu'il avait qualifié d'inadmissible et s'était déclaré avec force contre l'armement de la police municipale. Donc il a bien changé depuis parce qu'après le 13 novembre, il n'a plus été le même. Quelques jours après, il déclarait en effet que, avec la menace terroriste, je cite, « les circonstances ont changé. Il convient donc aujourd'hui que nous y réfléchissions, notamment pour nos agents les plus exposés. » Et encore, « dans une grande métropole comme la nôtre, assurer la sécurité de nos concitoyens est évidemment l'enjeu majeur. » Donc le 8 décembre 2015, il demande au ministère de l'Intérieur l'autorisation d'armer ses agents municipaux. Le ministère, évidemment, répond « oui, oui, allez, c'est super ». Et en plus, il offre le prêt de 315 revolvers donc à la ville de Lyon pendant 5 ans. Donc, coût pour la municipalité, zéro. Et donc, 5 ans, ça veut dire que fini l'état d'urgence. Gégé, il aura fait un beau cadeau à ses alliés de droite au conseil municipal qui défendaient depuis longtemps cette mesure, ainsi qu'au syndicat de police. Donc, de façon progressive, les agents de la police municipale de Lyon, sur base volontaire, sont formés et armés. Donc, une formation que Gégé a définie de très exigeante, 45 heures. Et bon, sur base volontaire. Donc, base volontaire, comme on a une émission interactive, on fait une petite devinette sur les 355 agents de police municipale. Combien ont-ils accepté de s'armer ?
320.
10.
290. Donc il y en a 65 qui ont quand même dit non. On peut imaginer que ça va être très facile pour eux, vu le virilisme ambiant au sein de la police. Donc ils auront sûrement des petites missions merveilleuses et beaucoup de stigmatisation de la part de leurs collègues. Bon, on leur souhaite de résister quand même dans cette petite forme de résistance. Hein. À partir de 1er juin, les groupes opérationnels mobiles, donc c'est 50 agents, pourront se servir des revolvers. Donc c'est eux qui seront en première ligne pour l'Euro 2016. Et au second trimestre de l'année, les policiers de l'unité mobile de circulation seront formés à leur tour. Puis courant 2017, la police de proximité. Et ensuite, en 2018, les fonctionnaires des grands parcs lyonnais et de l'hôtel de ville. Donc, il y en a pour tout le monde.
Attention à la tête d'or.
Ils vont attaquer les oies.
Donc tout ça pour nous protéger des méchants terroristes, n'est-ce pas ? Bon, pas exactement, parce que Monsieur Sécheresse, l'agent à la sécurité de Lyon, nous dit que les policiers nouvellement armés, je cite, « interviendront dans les zones de sécurité prioritaires, là où la situation l'exige, mais aussi sur d'autres créneaux horaires et sur les parcours ou territoires en intranquillité, comme les berges du Rhône, les bas de Pente ou les quartiers de Bellecour. Le jeudi, vendredi, samedi, soir, leur service se terminera à 2h du matin. Donc faites attention lors de l'apéro. » Donc oui, on peut vraiment dire que tout le monde déteste la police, sauf Gérard Collomb.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
C'est bien connu, l'une des règles du journalisme au XXIe siècle, et qui plus est à l'heure de la BFMisation des écrans et des papiers, c'est qu'une information en chasse une autre. Et c'est bien une grande lassitude, une nausée persistante, une impression de n'avoir prise sur rien, un ennui sans cesse renouvelé, qui en sont les principales conséquences pour les spectateurs contemporains. Cette semaine, c'est donc le ciel, les gros nuages gris et les rivières qui débordent qui mobilisent la plus grande partie des caméras, des micros et des grades papier. Et ce n'est pas pour déplaire au gouvernement, un peu plus d'une semaine avant le début de l'Euro de foot. Il était plus que temps de chasser ces images vilaines de manifestations, de blocages, de sabotage qui faisaient mauvais genre. Et quand les autres mentent ou se taisent, c'est bien connu aussi. Nous, à Radio Canu, on fait tout l'inverse et c'est pour ça que tu nous écoutes, chère auditrice, cher auditeur. On va donc faire le point sur tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui en France, qui, loin de montrer l'essoufflement du mouvement, souligne au contraire sa très bonne santé. Et tout ce que vous allez entendre, vous pouvez notamment le retrouver sur un article assez complet sur Mediapart et sur d'autres sites qu'on citera peut-être également aussi. Alors on va le faire de manière un petit peu ordonnée. Quatre grands types de secteurs stratégiques sont mobilisés. Le secteur du pétrole, celui de la déchetterie, celui des centrales électriques et celui des commerces. On commence par le pétrole.
Et oui, oui, le pétrole, parce que sur les 8 raffineries de pétrole que compte l'Hexagone, 4 appartenant au groupe Total sont toujours complètement arrêtées. 2 autres raffineries fonctionnent mais tournent à vide, c'est-à-dire qu'aucun liquide n'entre ou ne sort. 2 autres sites appartiennent à Esso et fonctionnent, mais la majorité du personnel n'étant pas en grève, mais elles ne tournent pas du coup à 100%. Et donc s'il faut effectivement plusieurs jours pour arrêter une raffinerie, il en faut également au moins 4 pour reprendre la production. Donc selon Mediapart, l'arrêt des raffineries coûte plusieurs millions d'euros, on ne sait plus du coup, par semaine à cette entreprise. Et même dans les terminaux pétroliers, où transite 40% du brut, par exemple au Havre, qui est importé par la France, le cap du 10e jour de grève a été franchi. Et le personnel, gréviste à 95%, a reconduit la grève jusqu'au lundi 6 juin à midi. Donc, depuis vendredi midi dernier, malheureusement, sur injonction gouvernementale, un service minimum est assuré sur ce site éminemment stratégique qui approvisionne non seulement en brut les principales raffineries du Grand Ouest, mais aussi en kérosène les aéroports parisiens. Ce serait ballot que Hollande ou Valls ne puissent pas aller se promener en France en avion. Et du côté des stations-service, la distribution de carburant serait en train de s'améliorer, mais le gouvernement puise en effet dans les stocks stratégiques et essaye de faire venir des camions d'Allemagne ou d'Espagne.
Automobilistes, tremblez et participez vous aussi à la pénurie.
Allez, on fait des tours de périph', c'est parti.
Et maintenant, on passe aux déchets, aux poubelles. Et donc, les poubelles, eh ben, ça commence à s'entasser dans certaines rues de Paris et des communes alentours. Et cela devrait empirer dans les prochains jours. Le centre de traitement de déchets d'Ivry-sur-Seine, Paris 13, la plus grande usine de traitement des déchets d'Île-de-France, mais pas que, parce que c'est la plus grande aussi d'Europe, qui traite les déchets pour un bassin de 1,2 million d'habitants, est bloqué depuis le lundi 30 mai. 5 jours de grève au compteur et un mouvement qui ne devrait pas faiblir au vu de la détermination des grévistes. Plusieurs dizaines d'éboueurs et d'égouttiers de la ville de Paris occupent depuis lundi l'incinérateur. Les centres de traitement des déchets de Saint-Ouen, donc Seine-Saint-Denis, Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, viennent d'être gagnés eux aussi par le mouvement social et la grève illimitée. Les grévistes bloquent les sites par tranche de 7h à midi. Désormais, seul le site de Romainville, qui a été bloqué mardi 31 mai pendant une journée par les chauffeurs de Benne évacués par les CRS, fonctionne. Donc certains camions Benne vont jusqu'au centre de traitement de la région centre pour évacuer les déchets. La pression devrait encore monter d'un cran car c'est autour des garages d'où partent les camions Benne d'être bloqués. En province, un mouvement reconductible est engagé dans la Loire à Saint-Étienne depuis le 31 mai ainsi qu'à Nantes. Et à Toulouse, Haute-Garonne, un dépôt de camions Benne est à l'arrêt depuis jeudi.
Alors pour faire circuler les camions Benne, il y a besoin de pétrole. On a vu précédemment que ça allait bloquer aussi. Mais il y a aussi besoin de centrales électriques pour compacter et trier les déchets. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est aussi le bazar là-dedans. Alors comme la semaine dernière, environ 5000 mégawatts, soit l'équivalent de la production de 5 réacteurs nucléaires, en France il y en a 58, ont été effacés par les grévistes contre la loi sur le travail. Plusieurs actions ont été conduites sur le réseau de transport et de distribution d'électricité. À Saint-Nazaire, 125 000 personnes ont été privées de courant entre 11h et midi et demi. Des coupures aussi longues et importantes sur les lignes de haute tension dans le cadre d'une mobilisation syndicale sont très rares. Le 24 mai, précédente journée de mobilisation, 10 000 foyers avaient été aussi privés d'électricité pendant 6 minutes à Nantes, et dans la banlieue de Nantes, à Orvault et à Saint-Herblain. En Ile-de-France, 1,2 million clients d'EDF profitent en journée d'une tarifeur creuse. Merci beaucoup, c'est chouette. Moins cher, hein, beaucoup moins cher, depuis le week-end dernier. L'alimentation en gaz et en électricité de la ville de Tulle, hein, donc Tulle c'est là où était précédemment François Hollande, donc a été choisi comme symbole de l'exécutif, puis qui a été conseiller municipal un petit moment, a aussi été touché. Et par ailleurs, à Saint-Raphaël, donc c'est dans le Var, l'électricité de la résidence secondaire de Pierre Gattaz, hein, donc on rappelle que c'est le président du MEDEF, mais vous devez le savoir, a été coupée par des militants syndicaux qui souhaitaient ainsi répondre symboliquement aux agressions verbales proférées par M. Gattaz, hein, qui a donc considéré que la CGT et Daesh, c'était la même chose. Et donc, ils ont décidé de suspendre l'alimentation électrique de sa villa.
Dans les transports maintenant, à la SNCF, une grève illimitée a commencé mercredi 1er juin pour peser sur les négociations sur la future organisation du travail et protester contre le projet de loi sur le travail. Le mouvement s'est poursuivi ce jeudi et aujourd'hui, où la circulation est restée fortement perturbée. Au blocage du mouvement social, la météo est venue donner son coup de patte, obligeant à la fermeture de plusieurs lignes de RER inondées. Dieu est avec les cheminots. Dans les airs, les grèves prévues en cette fin de semaine ont été repoussées, mais les syndicats de pilotes d'Air France appellent à faire grève au lendemain du lancement de l'Euro du football, du 11 au 14 juin, pour défendre l'emploi et protester contre la modification de certaines règles de rémunération. À Brest, le port est bloqué dès 6 heures du matin. Jusqu'à 15 heures par plusieurs centaines de personnes.
Et un pérage.
Ah ben, j'ai pas le petit papy.
Alors, pour revenir sur les cheminots, à Lyon, en plus de la grève, donc de leur piquet de grève, ils ont décidé tous les jours de faire des actions pour être un peu plus visibles et pour donner un peu plus de poids à leur, à leur grève. Donc, mercredi, le premier jour de leur grève illimitée, ils sont allés rendre visite au MEDEF, qui a ses locaux boulevard Mermoz. Et ils étaient une petite centaine à y aller et ils ont déposé des rails devant les locaux et ils ont réussi à rentrer à quelques-uns pour donner leurs revendications au MEDEF. Donc ce qu'ils voulaient faire, c'était justement revenir sur les propos insultants de Gattaz et surtout parce que en fait ils considèrent tout simplement que maintenant c'est le MEDEF qui a le pouvoir et c'est pas le gouvernement. Hier, ils se sont joints à la manif qu'il y avait à Oullins pour accueillir Macron. Et aujourd'hui, ils étaient à peu près 80 à se donner rendez-vous devant la gare Pardieu pour aller ensemble à la tour InCity. La tour InCity, c'est là où se trouve la direction régionale de la SNCF. Et donc, ils sont posés avec le camion pour hurler dans les micros leurs revendications et surtout appeler les cadres qui étaient dans les bureaux à les rejoindre pour faire la grève.
Et dans les commerces, que se passe-t-il dans les commerces? Eh bien, de nombreux mouvements sociaux sont en cours dans diverses grosses enseignes, notamment dans la région parisienne à Carrefour Market et autrement chez Amazon, le voleur de libraires. 3 des 4 sites français du géant américain de la distribution en ligne sont touchés par une grève illimitée à l'appel de la CGT, grève démarrée le 21 mai. Les revendications portent sur les salaires et les conditions de travail et plus globalement sur le retrait de la loi travail. Et la situation se complique avec les intempéries puisque le plus gros site d'Amazon en France, d'où partent quotidiennement plus de 100 000 commandes, tourne au ralenti. Il est situé à Saran dans le Loiret et à Saran dans le Loiret, on est dans un département sinistré par les inondations en alerte rouge. Quand on vous dit que Dieu est du côté de la rue, n'insistez pas.
Eh oui, parce que quand il se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe, bien entendu. Et du coup, les manifestations... Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Désolé. Les micros tournent, voilà. Les micros tournent à Radio Canu, les slogans aussi. Donc, des manifestations, plein de manifestations ont eu lieu hier et aujourd'hui en France. Alors déjà à Lyon, comme on a déjà pu écouter un reportage incroyable sur ce qui s'est passé hier pour...
Ah, il était bien.
D'accord, il était
magnifique,
bien.
Magnifique.
Mais donc du coup, parce que le pauvre Macron qui s'est fait courir après par les manifestants et les manifestants toute la journée à Lyon, et bah 200 personnes l'attendaient encore quand il est arrivé à la gare de Lyon. Mais il a eu de la chance, ses petits copains, les policiers et les policières étaient là pour bloquer le quai, alors même que les manifestants et les manifestantes rentraient dans la gare, et Macron est resté invisible, invisible, comme quoi c'est peut-être un costume invisible qu'il a plutôt qu'un costard. Mais à Paris, une manif interlute avec les cheminots en tête. Et parti bien sûr de la manifestation, mais du coup tout le monde a rejoint le métro pour aller faire coucou au président qui se trouvait porte de Vincennes. Et à partir de là, comme on ne pouvait pas atteindre le président tout comme Macron, une manif sauvage est partie sur la rue de Vaugirard, en même temps qu'il y a un rassemblement devant le parc des expos, des expositions de Paris du coup, et associé à un blocage du tram. Et une remanif sauvage, parce que franchement on s'amusait bien, est repartie dans le 15e arrondissement, pas la même rue, parce que justement à l'allée ils avaient déjà tout pété, les banques et les autres cibles du capitalisme. Du coup, malin, les rien manifestants et manifestantes ont pris un autre chemin pour continuer à s'amuser. Et à Rennes, moins drôle, une manifestation réunit 2000 personnes et ensuite une tentative de blocage de la rocade se solde par des violences policières plutôt conséquentes, parce que les policiers ont charger les manifestants avec leur voiture. Et après, on s'étonne que tout le monde déteste les voitures de police. Mais d'autres manifs ont bien sûr eu lieu à Nantes, Marseille et Toulouse. Et ce matin même, à Ivry-sur-Seine, petite commune du sud, je crois, de Paris, une cinquantaine de personnes ont accroché des banderoles en divers points d'Ivry et ensuite défilé contre la loi travail. Donc appelle tes copains et tes copines et va manifester à Ivry comme ailleurs.
Et maintenant, on va vous parler de la Belgique, parce qu'il y a aussi des trucs qui se passent là-bas, et c'est juste à côté. Et donc, il faut savoir que dès le 24 mai, il y a un mouvement social qui est né en Belgique. La protestation visait au départ à empêcher divers projets gouvernementaux, dont la retraite à 67 ans, la réforme des retraites et du secteur de la santé, les restrictions de personnel dans la fonction publique ou une réforme fiscale jugée trop favorable pour les plus riches et les entreprises, tient donc par hasard. Elle se focalise désormais sur un sous-investissement dans de nombreux services publics. Donc il y a eu une manifestation qui avait rassemblé quand même 60 000 personnes à Bruxelles, donc le 24 mai dernier. Ensuite, le 31 mai et le 2 juin, la mobilisation n'a pas faibli. Du ramassage des ordures au transport en commun, en passant par les enseignants et les administrations, les services publics belges fonctionnaient au ralenti. Le trafic ferroviaire est perturbé depuis une semaine, avec seulement 30 à 40% des trafics des trains qui circulent. Et aucun bus à Liège et à Namur, et 50% des bus seulement service à Anvers. Donc c'est génial, tout est paralysé. On est content. Et le chef de l'État justifie évidemment des réformes pour rendre le pays plus attractif pour les investisseurs. Venez tous en Belgique. Et dès lors, de créer de l'emploi. Et il a averti que le chemin était encore très long. Et souligne que les attentats du 29 mars, qui ont fait 32 morts, avaient fait du tort à l'économie belge. Mais oui, bien sûr, comme quoi l'état d'urgence et les attentats, ça sert souvent à faire passer toutes les réformes du pays.
Plus dégueu.
Voilà. Avaler toutes les pilules qu'on vous donne. Il y a des méchants terroristes.
Il y a des méchants gouvernants. Qu'est-ce qu'il a dit, Valls, récemment, d'ailleurs ?
Et oui, parce que pendant que les manifestants bloquent les flux et que Dieu les fait déborder partout en France, moi, qu'est-ce que je fais ? Attention, grand quiz aux auditeurs. Quel est ce bruit ?
Ça sonne mal.
C'est pire qu'un torchon, mais il faut quand même pas s'essuyer les fesses, sinon on attrape la chiasse. C'est bien sûr le Progrès. Et qu'est-ce qu'ils ont collecté, le Progrès ? C'est une interview exclusive de Valls. Alors qu'est-ce qu'il dit, Valls ? Il nous rappelle quand même que l'enjeu de cette loi de travail, c'est pas de nous mettre le nez dans la merde pour rester dans le champ lexical avec lequel on a commencé cette petite chronique sur le Progrès. C'est bien sûr la décentralisation du dialogue social au plus près du terrain. C'est créer des emplois et donner plus de droits aux salariés. Voilà, merci Valls. Donc, pour mémoire, décentralisation de la police, maintenant on leur donne des flingues. Donc ouais, je vois bien ce que c'est, le dialogue de proximité. Et le Progrès, qui est quand même un organe de presse objectif, pose cette question sur les mobilisations en disant « Mais tout de même, tout ça pour un article 2 et pour savoir si un accord d'entreprise passe avant un accord dans la branche ou l'inverse. » En gros, il pose la question « Bah, tout ça parce qu'on détruit le droit. Mais vu comme ils le disent, ça a l'air d'être tout ça parce que vous mangez des cacahuètes. Du coup, Emmanuel Valls répond « Faire confiance à l'intelligence des acteurs de terrain pour prendre les bonnes décisions dans les entreprises, c'est essentiel. » Alors on continue ce bel adage, puisque ce qu'on apprend, bah oui, puisqu'ils ont raison, pourquoi les gens comprennent pas? Parce qu'ils
sont bêtes.
Et parce qu'on leur a mal expliqué, ouais, vu qu'ils sont bêtes, faut leur expliquer.
Ils comprennent rien.
Du coup, voilà, il dit que le problème, c'est juste un problème de présentation et que tout ça va aller mieux avec la décentralisation du dialogue social, mais que surtout, ce monsieur Valls, il est pour des choses belles, pour une république qui sera basée sur le progrès sous toutes ses formes. Le compromis qu'il faut
progrès,
bâtir. Non, en plus, c'est vrai, il se renvoie la balle avec le journal. Le compromis qu'il faut bâtir avec les forces vives. Voilà. Et la république qui protège et garantit l'égalité. C'est, bon. Moi, j'ai tout compris grâce au progrès. Donc,
c'est quoi, t'as dit
progrès,
la république qui protège le capital, c'est ça que t'as dit?
Non. Oui, c'est, j'ai dit la d'accord. République qui protège et garantit l'égalité. C'est exactement ça.
Et pour continuer dans les choses qui sont belles, en fait, il y a eu une belle loi qui parle de modernisation de la santé, créer des synergies sur tout le territoire. Donc c'est la loi Touraine qui est passée en janvier là et qui doit être appliquée en juillet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette belle modernisation dans la santé ? Du coup, ce sont la création des groupements hospitaliers de territoire prévus par la loi santé de décembre 2015 qui doivent être mis en place du coup à partir de juillet. Et si c'est pas mis en place en juillet, le personnel, enfin tout le monde a 2 mois pour réussir à le mettre en place, sinon ça va être l'État qui va faire une espèce de 49-3 aussi dans la santé, ils vont le mettre en place de force quoi.
Et voilà ce que c'est le dialogue local, c'est mettez-vous d'accord ou on fait passer pour vous.
C'est ça. Du coup, là, ce lundi, il y avait plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées à Paris. D'ailleurs, c'était pas lundi, c'était mardi. Et c'était à l'appel de différents syndicats, donc la CGT, Sud, différents partis et différents individus aussi pour dire non au groupement hospitalier du territoire. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le problème avec ces groupements d'établissements? Eh ben, c'est que c'est exactement dans la même logique que la loi Bachelot qui avait eu lieu en 2009, c'est-à-dire des fusions des différents établissements de santé. Du coup, ça va refaire encore moins de petites structures de proximité. Et ça va toujours dans la même logique. Pardon. j'ai créé un concept entre logique et objectif. Moi-même.
Tu pourrais peut-être aller pour Emmanuel Macron.
Et du coup, dans cette logique, on veut faire des économies dans le secteur de la santé. Voilà, donc les manifestants mardi criaient leur refus contre les groupes hautement toxiques. Et se disait hospitalité, humanité, c'est trop demandé, puisque là, on voit bien qu'on perd du coup toute la logique d'accompagnement et de soins qu'il peut y avoir, enfin de moins en moins, mais qui sont censés exister dans la santé. Donc là, c'est 3 milliards d'euros que l'hôpital doit économiser d'ici 2017. Et le problème, c'est que ça fait déjà 20 ans qu'on applique la potion libérale à l'hôpital. Donc, il y a déjà 3 ans, il y a eu un rapprochement forcé de plusieurs hôpitaux, ceux de Creil et Senlis. Donc, ça, c'est quelqu'un qui témoigne, qui fait partie de la coordination de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Et le résultat, ça a été la réduction de personnel, la baisse du nombre de lits et du coup, bien sûr, le stress accru qui crée le fait que les équipes font de plus en plus mal leur travail. Voilà, ça devient... Enfin, il faut quand même une certaine disponibilité mentale pour faire les métiers du soin aussi. Voilà, donc la ministre, elle n'était pas là mardi parce qu'elle était au Mexique.
Quelle vie difficile.
Ah mais
ouais, pense à toi, Marisol.
Mais ce qui lui est reproché quand même, c'est vraiment de rester dans cette même logique de la loi Bachelot, alors que quand elle n'était pas au pouvoir, elle avait critiqué cette loi. Ah mais...
mais ils se moquent de nous, c'est pas possible.
C'est dingue, ces gens qui retournent leur veste comme ça.
Elle a retourné sa veste quand elle s'est rendue compte qu'elle était doublée en 10 ans.
Et voilà, et du coup, donc, à ce rassemblement, il y avait aussi des personnels de l'hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis qui espèrent bénéficier d'une dérogation pour ne pas être fondus dans un GHT, donc le groupement hospitalier, parce qu'ils devraient fusionner avec les hôpitaux de Montreuil, Montfermeil et Aulnay-sous-Bois, avec le risque, bien sûr, que le budget fonde aussi. Et pour le moment, la psychiatrie est préservée de la tarification à l'activité. Ce qui était passé en 2009, où on n'est plus payé sur les soins globaux et tout, mais tout est calculable et c'est vraiment en fonction de l'activité que les budgets sont prévus. Donc pour le moment, c'est pas comme ça dans la psychiatrie et c'est pour ça qu'ils ont pas envie de fusionner avec les autres hôpitaux. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que cette loi, bah, c'est bête. Pourquoi ? Parce que ça regarde que le court terme. Parce qu'en vrai, si on ferme toutes les petites structures, ça fait que les citoyens, ils ont moins accès aux soins. Du coup, ils attendent beaucoup, beaucoup pour consulter. Du coup, ils ont des pathologies de plus en plus graves, ce qui engendre un surcoût. Donc même dans une logique économique, ça va pas du tout.
Waouh, ça arrive.
Quelle belle morale.
Voilà, donc il va y avoir plein de rendez-vous pour continuer la lutte contre ces établissements, ces gros trucs. Mardi, il y a encore eu aussi un autre établissement de santé qui a manifesté devant le ministère de la Santé. Et voilà, il y a plusieurs hôpitaux psychiatriques qui demandent des dérogations à cette loi. Donc on demande surtout un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre hôpitaux publics autour d'un vrai projet médical. Et les grévistes demandent aussi donc de garder une autonomie financière. Voilà. Et donc faut lutter contre cette loi qui devrait permettre, si elle passe, de passer de 2200 établissements publics à moins de 100 groupements hospitaliers territoriaux. Donc voilà, encore des fermetures et des fusions de structures.
Et du coup, tu connais un site où on peut retrouver un peu des infos sur les luttes dans la santé ou le travail social?
C'est Nébuleuse.
Ah oui, il y a un site qui s'appelle nébuleuse.info. C'est très très riche, hein. C'est plein d'informations dans tout ce qui concerne le secteur du social et de la santé. Donc bien sûr, il y a un super article dessus qui reprend plein d'informations et tous les points sur les luttes par rapport à cette loi de modernisation du de la santé. Ce qu'on peut dire, attendez, j'ai fini. Il y a une pétition.
On reçoit des appels là, il y en a qui en ont marre.
Mais il y a juste une pétition et c'est juste pour dire qu'aussi, parce que moi je connais pas trop les trucs de Twitter, mais il y a comme le truc là, on vaut mieux que ça, il y a aussi un dispositif de photo vidéo et ça s'appelle on soigne mieux que ça.
Hashtag,
voilà, je savais plus comment ça s'appelle le truc. Voilà, c'est fini.
Ah, on va essayer de vous lancer une musique par exemple.
Au Bakur, Kurdistan du Nord, en Turquie, les résistants et résistantes kurdes continuent à s'opposer à l'État turc, lequel maintient la guerre coloniale en cours. Les villes de Nusaybin et Şırnak sont toujours sous couvre-feu militaire et voient s'opposer les YPS, Unité de protection civile, et les YPS-JIN, Unité de protection civile féminine, à la police et aux forces spéciales turques. À Nusaybin, les combattantes des YPS-JIN ont réalisé une action de sabotage contre un groupe de 15 soldats turcs. 10 d'entre eux ont trouvé la mort. Face à la résistance en cours, l'État turc a donné l'ordre de bombarder la ville. 4 frappes aériennes ont ainsi été réalisées dans le quartier de Halika, mercredi 11 mai. À Şırnak, qui entre dans son 62e jour de couvre-feu, le général Hulusi Akar a donné l'ordre de poursuivre la mise à feu des habitations. Les hôpitaux, les institutions, sites historiques et lieux de commémoration sont progressivement détruits par les attaques des forces spéciales turques. Mardi 10 mai, la mosquée Geylani a été détruite par les tirs de mortier. En réponse à ces attaques, les HPG, les mouvements de jeunesse communiste, ont fait exploser un véhicule militaire de l'armée turque sur la route de Midyat à Edil, faisant 5 morts. À Ahmet, Diyarbakir en turc, une attaque a été menée contre un bus militaire. 9 policiers participant aux attaques en cours au Bakour ont également trouvé la mort. Enfin, vendredi 13 mai, à 4h30 du matin, le PKK a abattu un hélicoptère de l'armée turque. 6 soldats ont trouvé la mort, parmi lesquels 2 pilotes. Shermin Soydan, journaliste à l'agence DIHA, a été arrêté puis emprisonné à Wan pour avoir transmis les informations sur l'opération Yuksekova, c'est-à-dire le siège et les attaques contre les habitants de la ville. Aujourd'hui, 13 journalistes de l'agence de presse DIHA ont été emprisonnés. Ailleurs, un jeune kurde a reçu 9 coups de couteau sur un chantier près d'Istanbul pour avoir parlé kurde. Pour l'instant, son bras et sa jambe droite sont paralysés. Au Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan de l'Ouest, en Syrie, une voiture piégée de Daesh a explosé à Kamishlo en faisant plusieurs victimes.
Donc voilà, donc il y a un petit cafouillage et là vous venez d'entendre les news du Kurdistan qui était censé passer plutôt à la fin, mais c'est la fin en fait au final. Et du coup on va revenir vite fait sur une autre rubrique, ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu parler.
Bah, on en rêve tous.
Sur le schiste et non pas sur le gaz de schiste, du coup sur le pétrole de schiste. Puisqu'il y a une première, en France, il y a eu une interdiction de forage qui se basait sur la loi de 2011. Et ça, c'est une news toute fraîche parce que c'était le 11 mai, non placé depuis, donc je la place ce soir. Donc voilà, et pour une petite info, c'est le groupe pétrolier canadien Vermilion qui a renoncé à son recours contre une interdiction de réaliser un forage d'exploration pétrolière. Donc là, ça concerne le pétrole de schiste, mais la technique est la même, à savoir la fracturation hydraulique. Et donc, c'est un jugement qui est assez important, enfin le rendu du jugement est assez important, puisque c'est la première fois qu'un jugement annule une autorisation de forage pour de la technique de fracturation. Et donc en l'occurrence ici pour le pétrole de schiste, et c'est la première fois qu'il y a une application claire, nette et directe de la loi de 2011. Et c'est tout ce que je dirais là-dessus.
Et tu fracturas pas mon shit.
Et voilà pour ce soir, bien entendu, le Canu Info, c'est terminé. Pour l'agenda, allez sur rebellion.info.
Est-ce qu'on peut dire
ce qui se passe?
On peut dire vite fait.
Qu'est-ce que c'est que ce coup d'état?
Non. On peut dire vite fait.
Un petit coup pour la grève générale.
On peut dire vite fait pour l'agenda, au moins pour ce soir.